Quelle est la chose dont nous parlons peu? Il y a un auteur américain, Joseph Bailey, qui a écrit un livre qui s'appelle « La dernière chose dont nous parlons ». Et dans ce livre, il nous dit « À notre époque de percée scientifique et d'explosion de la connaissance, nous sommes particulièrement frustrés de réaliser que nous sommes capables de nous libérer de l'environnement terrestre, de nous échapper dans l'espace, mais que nous sommes toujours brutalement stoppés par le mystère inflexible de la mort. » Tu veux lire ça ?
Exploding knowledge that we should be able to break out of Earth's environment and yet be stopped cold by death's unyielding mystery.
Il continue en disant, certes, l'électroencéphalogramme a remplacé le miroir que l'on mettait devant la bouche, les autopsies sont plus sophistiquées, l'embaumement cosmétique a remplacé les centimes composés sur les paupières et les suaires en toile, mais nous sommes toujours confrontés au mur blanc de la mort.
He continues by saying that electroencephalograms may replace the mirror that was once held before the mouth. Autopsies may become more sophisticated. Cosmetic embalming may take the place of pennies on the eyelids and canvas shrouds, but death continues to confront us with its blank wall.
Et il dit, tout change, la mort ne change pas.
Says everything changes, death.
Nous pouvons la retarder, nous pouvons dompter sa violence, mais la mort est toujours là qui nous attend. La mort attend toujours. La porte du corbillard n'est jamais fermée. Les éleveurs de laitiers, les vice-présidents commerciaux vivent à l'ombre de la mort. Tout comme le gagnant du prix Nobel, la prostituée, la mère de famille, le bébé, l'adolescent, le vieillard. Le moteur du corbillard tourne au ralenti en attendant aussi bien le chirurgien qui pratique une transplantation cardiaque que le receveur rempli d'espoir, l'agent des pompes funèbres, aussi bien que le cadavre qu'il manipule. Et il conclut, la mort n'épargne personne. Le roi Salomon a dit dans l'Ecclésiaste qu'en fait nous sommes tous égaux devant la mort. Chapitre 7, verset 2 de l'Ecclésiaste. Il nous dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme. Et le vivant en prend conscience. Qui que nous soyons, quel que soit notre argent, le montant d'argent que nous avons à notre disposition, quelle que soit l'importance de notre influence dans la société, quel que soit notre âge, La mort est inévitable.
Death is inevitable.
C'est vrai que c'est une réalité dont nous n'aimons pas parler.
It's true, it's a reality that we don't like to talk about.
Et comme en tant qu'homme, nous ne pouvons pas conquérir la mort, nous avons imaginé tout un tas de fausses théories dans l'espoir d'atténuer un peu l'impact de la mort.
And as men incapable of doing anything about our eventual deaths, we have come up with a bunch of theories to soften the effect of death.
Un auteur chrétien dit qu'en fait il y a trois conceptions qui reviennent souvent.
A Christian author has noted that there are three ideas that keep coming back.
Celle de la transition temporaire. La mort nous amène dans un état intermédiaire où d'autres peuvent prier pour nous éviter la punition. C'est la doctrine du purgatoire, c'est un endroit intermédiaire entre l'enfer et le paradis céleste.
And this is referred to the doctrine of purgatory. It's an intermediary place between hell and heaven.
Et donc c'est moins grave si les gens sont au moins encore un petit peu d'espoir quelque part.
So death is less serious.
L'autre fausse conception, c'est celle des réincarnations répétées.
Another false conception is the idea of repetitive reincarnation.
Et la philosophie orientale, les religions orientales pensent que la mort est suivie d'une naissance dans un autre corps.
And oriental philosophies and religions believe that death is followed by a resurrection into another life.
Et qu'ainsi on peut être, pour ainsi dire, indéfiniment recyclé. En montant vers des degrés de bonheur plus haut si on a mené une bonne vie. Ou en descendant vers des degrés moindres dans le cas contraire. Là aussi, on a l'impression que ça émousse un peu ce que Paul appelle l'aiguillon de la mort, la douleur de la mort. Mais là encore, ce n'est qu'un mensonge.
Il
ne s'agit pas de savoir ce que nous pensons, mais ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une autre théorie qui est populaire, c'est que en fait, c'est la mort, c'est le point final. C'est un peu comme quand on regarde un feu d'artifice à Nice. La mort, c'est en quelque sorte le bouquet final de la vie. Ce serait plutôt un petit pétard qui fait pas beaucoup de bruit, peut-être. Mais l'idée, c'est qu'une fois que c'est fini, tout retombe et il n'y a plus rien dans le ciel. Quelque part, je pense que vous aussi, lorsque le feu d'artifice se termine, il y a un petit mal.
Somehow, probably we too, once the fireworks are all over, we're kind of ill at ease.
Parce que Dieu a mis en nous le sentiment de l'éternité pour la vie.
Because God has placed in us a sense of eternity.
Et si en dépit de ce que notre cœur, notre la profondeur de notre être nous dit qu'en fait il y a cette éternité qui nous attend. On peut essayer de se forcer à croire qu'il n'y a plus rien vraiment après la mort. Le problème, c'est que ce genre d'approche a conduit à deux choses qui sont mauvaises.
But the
Cette approche peut conduire au désespoir.
This approach leads to
despair.
Despair.
C'est la philosophie existentialiste.
That's existential philosophy.
À quoi bon vivre ?
Why is it worth living ?
Il n'y a aucune raison.
There's no reason.
Que je meure maintenant ou dans 50 ans après avoir souffert ou... Et cette même fausse conception, elle peut nous conduire à ce qu'on appelle la morale épicurienne. S'il n'y a rien après, autant en profiter un max. C'est ce que le prophète Ésaïe et l'apôtre Paul disaient, mangeons, buvons, car demain nous mourrons.
Be merry.
Faisons la fête.
Let's have a party.
Tant qu'on peut, allons-y.
As long as we can, let's go.
La Bible nous apprend que ça aussi, ça laisse un grand sentiment de vide.
But life shows us that this too leaves us with a great sense of emptiness.
Toutes ces conceptions sont fausses.
All these ideas are false.
Mais je vous invite à parler avec vos voisins, avec vos parents, avec vos amis, et leur demander pour eux où est-ce qu'on va après la mort. Bien sûr, c'est le dernier sujet dont on aime parler, mais c'est tellement important. Et ce n'est pas les occasions qui manquent. Il suffit de prendre le journal et de voir les dernières catastrophes, le dernier attentat, la dernière violence, les dernières guerres pour tout naturellement parler de la mort. La Bible, elle, nous apprend des choses essentielles sur la mort. Encore une fois, on l'a vu dans l'Ecclésiaste, la mort touche chaque homme et chaque femme. Les statistiques sont toujours de 100%.
The statistics always come out at 100%.
Il n'y a pas besoin de faire de sondage.
You don't have to take a survey.
La mort, elle, résulte du péché.
Death is a result of sin.
Romains 6, 23.
Romans 6.
C'est le salaire du péché. La Bible nous apprend encore une fois que nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur ne revienne avant notre mort, et après cela viendra le jugement. Aujourd'hui, devant nous, nous avons un passage qui nous apprend d'autres vérités sur la mort. J'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens 5, versets 1 à 10.
And here we'd like to read together with us in 2 Corinthians 5, verses 1 through 10.
Page 205 dans la Bible bleue, dans le Nouveau Testament, si vous avez du mal à trouver. Chapitre 5, verset 1. Dans la Bible à la Colombe, nous lisons, « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. La Bible est inspirée. Les chapitres et les versets de la Bible ne sont pas inspirés. Dans le sens où la division plutôt de la Bible et de chaque livre de la Bible en chapitres et puis en versets est quelque chose que les hommes ont fait.
In the sense that the division of the Bible into chapters and verses is something that men did.
Et l'idée, bien sûr, c'était de pouvoir se repérer, de parler d'un texte facilement.
And the idea, their motivation was to be able to make reference to a specific chapter or place in the Bible.
Mais à l'époque de Paul, de Pierre et des textes des évangélistes, des prophètes, la lettre, l'évangile était un long chapitre, un long texte.
But in the days of Paul, Peter, the prophets, the letters were long texts.
C'est en 1227 qu'un dénommé Stéphane Langton a commencé à diviser la Bible en chapitres. 1227.
It was in the year 1027 that a man began to divide the Bible up.
Et puis, un motif de fierté nationale, c'est en 1551 qu'un Français, Robert Étienne, a défini des versets. Peu importe, mais tout ça pour dire que des fois, il y a des séparations qui sont un peu malencontreuses. Et en fait, le passage que nous avons lu se rattache bien sûr au chapitre qui précède. Ou à partir notamment du verset 16 du chapitre 4, où Paul disait : c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Et j'aimerais que vous remarquiez comment il commence. Il ne dit pas verset 1 du chapitre 5, il dit « nous savons ». Pas nous nous demandons ou nous pensons peut-être. Là, Paul vit un ministère très difficile. Il souffre beaucoup, il est confronté à la mort. Et un terme qui revient, c'est qu'il ne perd jamais courage. Pourquoi ? Parce qu'il a la bonne perspective. Au lieu de voir les choses ici-bas, dans les semaines à venir, dans les mois, dans les années à venir, il voit la perspective éternelle. Et justement, il parle de la mort. Et il dit qu'en fait, son corps, comme le mien, comme le vôtre, même si vous êtes en pleine forme, notre corps extérieur, notre homme extérieur se détruit progressivement. Mais notre vrai moi, notre homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Et donc, lorsqu'il dit les choses visibles sont momentanées,
and when he says that the visible things
Ce sont des paroles d'une ampleur difficile à mesurer. Mais on peut l'appliquer précisément dans le cas de notre corps physique. Il dit notre corps physique que l'on peut voir, lui, il est momentané. Par contre, le moi intérieur, le vrai moi, ce que vous ne pouvez pas voir, ce que je ne peux pas voir en vous, ça, c'est éternel. Et vous vous souvenez que Paul, c'était un fabricant de tentes. Et une fois encore, il compare notre demeure terrestre, notre corps, à une tente. Et on a déjà dit que le camping, c'est bien. Mais ça a un temps. C'est bien pendant quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Et contrairement à l'homme moderne qui passe beaucoup de temps sur son corps, contrairement à la femme moderne qui passe beaucoup de temps sur son corps, Paul se dit, c'est qu'une vieille tente. Sans vouloir offenser personne, c'est Paul qui parle. Et encore une fois, il dit, c'est bon parce que cette vieille tente, elle est détruite, ou il est temps de lever le camp, de plier, de décamper. Mais merveilleux contraste, une demeure est construite pour moi. Si vous êtes un enfant de Dieu, il y a un projet de construction en cours dès maintenant. Je ne sais pas s'il doit y avoir des permis auprès de la municipalité des pompiers, mais le Seigneur dit qu'il est en train de construire une demeure pour nous. Vous vous souvenez, avant sa crucifixion, Jésus avait annoncé qu'il allait mourir et il avait dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est Jean 14, 1 à 3.
In John chapter 14, verse 1, he's telling us, in my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself.
Qu'est-ce que c'est que cette demeure que Christ est en train de préparer? Quand on vit sur la Côte d'Azur,
Riviera,
on pense que cette demeure, ça va être une belle villa de luxe.
We think of a dwelling place as a luxurious, beautiful place.
Un palace peut-être?
Maybe a palace.
Un hôtel particulier?
Parce
que si c'est Dieu qui construit, il doit faire les choses bien.
God,
mais il y a quelques considérations qu'on doit prendre en compte. On sait qu'on n'aura plus besoin de dormir. n'y aura plus besoin de chambre à coucher.
We won't need bedrooms.
Il n'y aura plus de vieillissement, de corruption, il n'y aura pas de saleté, il n'y aura plus besoin de salle de bain.
There won't be aging, our bodies corrupting, dirt. We won't need bathrooms anymore.
Et donc il est beaucoup plus probable que cette demeure ce soit notre nouveau corps glorieux. Et en étudiant 1 Corinthiens 15, si vous étiez là, si vous en souvenez, on avait parlé de ce corps glorieux de la résurrection.
In
1 Corinthiens 15, 42, on peut reprendre quelques passages.
In 1 Corinthians 15, verse 42.
Jésus était mort, ressuscité avec un corps glorieux. Paul répond à la question, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils?
Jesus died and came back in a glorified body, and Paul raises the question, how will we be after the resurrection?
1 Corinthiens 15, on va lire 35 et suivant. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puisque Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et puis, il parle des corps célestes et des corps terrestres. En prenant l'exemple de l'éclat des étoiles, qui est différent suivant leur nature. Et verset 42, il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé corruptible, c'est-à-dire soumis à la corruption, au déclin physique, à la putréfaction, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » Parce qu'il nous ajoute, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et donc, c'est ce corps glorieux dont il est question un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15, toujours. Verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Autrement dit, il faut être mort avant de pouvoir recevoir ce corps glorieux. Et puis il ajoute, voici que je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent et qui est maintenant révélé. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier chapitre du verset 15, c'est l'application de cette connaissance de la mort. C'est « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. »
No
Ces choses que nous pouvons savoir à propos de la mort, le fait que nous allons avoir un corps nouveau, ça va être un changement merveilleux. Ça va être de passer de la deux chevaux à la super Mercedes. D'un ordinateur 286 à un Pentium à 2 gigas, au moins. Les vendeurs, les commerciaux connaissent bien l'attrait de la nouveauté. Et nous avons cette promesse d'avoir un corps parfait, avoir un corps équipé pour vivre. Le costume que nous avons maintenant, c'est un costume. Il est pas mal adapté pour vivre ici-bas. Et nous avons besoin d'un corps adapté à la vie céleste, et c'est ce corps glorieux qui va être ce nouveau costume éternel. Et là, il fait aussi un contraste entre ce corps transitoire, provisoire que nous avons et le changement éternel qui nous attend. Philippiens nous dit que Christ va transformer notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. C'est une promesse. C'est une promesse. 3:21. C'est une promesse. C'est une certitude. Et c'est vrai qu'ici-bas, plus on prend de l'âge, plus on a de maladies. Plus on a l'impression de vivre dans une tente qui prend l'eau, qui pendouille, qui... Pensez au camping. Je crois que je t'ai donné une traduction. Il y avait l'épitaphe de Benjamin Franklin que tout le monde connaît, le grand homme d'État et inventeur, imprimeur américain. Qui disait « Si j'ai le corps de Benjamin Franklin, imprimeur ». Comme la couverture d'un vieux livre, son contenu déchiré, ses enluminures et sa tranche dorée effacée. Cependant, l'œuvre ne sera pas perdue, car il réapparaîtra comme il le croit. Il réapparaîtra dans une nouvelle et bien plus belle édition, corrigée et amendée par l'auteur. Et donc nous avons ce désir d'avoir un jour ce domicile céleste. Paul mélange un peu les images de l'habitation et du corps par-dessus l'autre.
So we have this desire to attain this heavenly dwelling place, and Paul's mixing the idea of the dwelling place and our glorified bodies.
Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, verset 3. Une interprétation possible, c'est que Paul souhaitait ne pas avoir à passer par la mort physique. Et donc il aimerait bien mettre le nouveau costume sur l'ancien. Une autre idée, c'est qu'il ne veut surtout pas se retrouver comme un esprit désincarné, comme un fantôme.
explanation is expressing that he didn't want to end up being like a lost floating spirit or a phantom.
Ce passage, en fait, est très discuté pour les précisions, les détails.
This passage is a very disputed one for, as to its interpretation.
Le mieux, c'est de ne pas commencer à lire les commentaires.
The best thing is to not start reading all the commentaries.
De prendre ce qui est affirmé.
To just take what is affirmed here.
Parce que sinon, on est confronté à une telle divergence qu'on ne sait plus trop ce que penser. Notamment le verset 4, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, ça on est d'accord, hein, accablés, parce que nous ne voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Alors on sait que à la mort, le chrétien, l'enfant de Dieu, est tout de suite dans la présence du Seigneur.
We know at death, at the instant of death, a child of God, a Christian, is immediately with God.
Est-ce qu'il a déjà reçu son corps glorieux?
Does he already have his glorified body?
On sait que son corps terrestre est enterré ou détruit ou en cendres. Il a peut-être été déjà recyclé dans le cycle des plantes, des animaux qui mangent les plantes, etc. En même temps, on sait qu'à la résurrection des morts, il y aura ceux qui recevront leur corps glorieux. Donc on ne sait pas exactement les détails.
So we don't know the exact details.
Et je vous invite, si ça vous intéresse, à essayer de vous former une opinion par vous-même. Mon pasteur Wayne Taylor pense que lorsque nous mourons, nous recevons immédiatement un corps glorieux. Et ce sont les restes de notre corps terrestre qui sont ressuscités, absorbés dans la nouvelle vie au moment de la résurrection. Beaucoup d'opinions différentes. Mais toujours la certitude, nous savons que nous aurons un corps glorieux. Un autre élément qui fait qu'on a du mal à saisir ces choses, c'est que nous vivons dans un espace-temps. Et nous avons du mal à nous imaginer l'éternité. Encore une fois, l'éternité, c'est un présent éternel. Et certaines de ces choses que nous essayons de mettre en séquence chronologique pour Dieu, c'est l'éternité, c'est le présent.
For God, it's all eternity, it's all present.
Sachez que vous allez avoir un nouveau modèle.
Just know that you're going to get the new model.
Que vous allez quitter la vieille tente,
you're going to leave that old tent.
Et que vous n'allez pas être déçu du voyage. Parce que verset 5, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts.
So it's a down payment.
Ça vient du même mot que le mot grec.
It comes from the same word as a Greek word.
Et comme vous le savez, c'est un versement qui indique qu'on s'engage à payer la totalité. La banque nous a refusé un prêt, mais on était prêts, nous, à verser un paiement initial des arts pour pouvoir acquérir ce local. Là encore, le Seigneur peut ouvrir les portes, les écluses du ciel. Peut-être qu'il peut ouvrir votre cœur et votre porte-monnaie. Nous avons, pour ceux qui le connaissent, Nick Long à Siegen, à Calvary-Chapel en Allemagne. Il a un ministère florissant, notamment auprès des jeunes, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et parmi ces jeunes, il y avait le fils d'un riche industriel qui était vraiment sur une mauvaise voie, qui est revenu à Dieu, qui est heureux de servir Dieu. Et cet industriel a commencé à venir à l'église de Nick. Et lui a dit, c'est tellement merveilleux ce que vous avez fait que je vais vous signer un chèque de $500,000. Ça fait 540,000 euros ou un peu plus. Ça fait 3,500,000 anciens francs. Francs. Peu importe, c'est une somme énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'industriel a dit, ce n'est qu'un premier versement. Et maintenant, on aura du mal à avoir de l'aide des ouvriers venant de Chénic parce qu'il est en train de construire une nouvelle église et une nouvelle école biblique. Mais là, c'est rien, c'est bien, tant mieux, on est béni par ce que le Seigneur fait à Siegen, on n'est pas du tout jaloux. Ça serait pas mal, hein. Peut-être on pourrait inviter ce... Non. Mais ici, le Seigneur, par son esprit, nous dit que le Saint-Esprit, c'est qu'un premier versement. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a dit, ça va être formidable, et pour commencer, je vous donne le Saint-Esprit. Toutes les bénédictions qui peuvent être au-delà d'avoir la présence de l'Esprit Saint en nous, sa puissance, sa sagesse, son amour. Sachez que c'est qu'un début. Et c'est pour ça que Paul dit, nous sommes donc toujours pleins de courage. Encore une fois, il dit, je sais que si on est dans ce corps, on est quelque part loin du Seigneur. Parce que Dieu est esprit. Et nous avons la présence de Dieu dans nos vies, mais nous n'avons pas la plénitude de la présence que nous aurons lorsque nous serons dans notre corps glorieux. Et donc, il dit, moi aussi, bien sûr, je souhaiterais être avec le Seigneur, mais dans un autre passage, dans Philippiens, il dit, j'ai du travail à faire ici. J'aimerais mieux quitter ce corps pour être avec le Seigneur, mais nous sommes toujours pleins de courage.
And
Et il nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est à l'indicatif, c'est comme ça qu'on marche et c'est comme ça qu'on doit marcher. Encore une fois, le tout, ce n'est pas d'avoir cette connaissance, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Une première application, nous la trouvons au chapitre, au verset 9.
And the first application we find is in verse 9.
Nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable.
Our first ambition should be to please him.
Ça, c'est notre ambition présente ici-bas.
And that, of course, is our ambition here on earth.
Dieu nous a tout donné. Et on croyait que on avait un peu compris, mais il nous dit là que le Saint-Esprit c'est qu'un début. C'est un don. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est un don. C'est la grâce. Mais quand on est ainsi béni, on a envie de faire quelque chose en retour, non pas pour mériter, c'est pas la peine. Et donc notre ambition présente, ça doit être de lui plaire.
So our present ambition should be to please him.
Est-ce que je pense chaque jour à comment est-ce que je peux plaire aujourd'hui à Dieu?
Do we think each day, how can I please God today?
On a tellement tendance à dire oui j'ai péché mais Dieu son sang m'a pardonné, alléluia, c'est merveilleux. Est-ce que je me dis attends, Dieu a fait tellement de choses pour moi, est-ce que moi je ne peux pas essayer de lui plaire? Pas une question de mériter encore une fois, mais une question de réagir logiquement, naturellement, sainement. Cette motivation de plaire à Christ, elle est d'autant plus importante que verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Ça aussi, ça doit être une application dans nos vies. Non seulement Dieu m'aime et je veux lui plaire, mais je veux lui plaire parce que il y a une future récompense en jeu. Dans la Bible, il y a plusieurs jugements. Le jugement du péché, c'est la croix, bien sûr. Il y a le jugement du grand trône blanc de l'Apocalypse 20. Où les non-croyants seront condamnés à l'éternité avec le diable. Et le tribunal de Christ, des fois on utilise le terme bema, c'est le terme grec. Lui, chacun de nous devra y passer. Pas pour remettre en cause notre salut, mais pour décider de l'absence ou de la présence et de quelle récompense notre vie va être suivie. Encore une fois, des fois on a un peu du mal à dire mais attends, c'est par la grâce ou il y a des récompenses?
Again, we have a little difficulty understanding this. Is it by grace or is there reward for works?
Mais ça c'est une certitude.
But this is a certainty.
Et on peut trouver des milliers de livres sur l'identité de l'Antichrist.
And we can find thousands of books on the identity of the Antichrist.
Mais à ma connaissance, il y a très 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 de peu de livres qui parlent du tribunal de Christ. C'est pourtant un sujet beaucoup plus immédiat pour chacun de nous. Et encore une fois, c'est quelque chose de certain. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Matthieu 16, 27. Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu le méprises? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 14, 10. C'est absolument nécessaire, ce tribunal de Christ, parce que là, toutes nos motivations vont être examinées, révélées au grand jour. Corinthiens 3, 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, vous vous souvenez, on avait parlé des œuvres qui étaient faites de matériaux qui résistaient au feu ou de matériaux qui seraient brûlés au jour du jugement. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé. Ça, c'est pas une question. Mais comme au travers du feu, de justesse, hein, c'est juste, juste. Ce tribunal de Christ donc se passera au retour de Christ. Il y a déjà un jugement présent auquel nous sommes invités, ce qu'on appelle la discipline. Nous sommes invités à nous juger nous-mêmes pour confesser nos péchés. Il faut garder une liste de péchés courte, non pardonnée avec Dieu. Ne laissez pas la liste s'agrandir. Il n'y aura pas de favoritisme. Même si vous êtes venu à Calvary Chapel, vous n'aurez pas de points supplémentaires. Je plaisante. Et chacun de nous, personnellement, devra répondre. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. 1 Corinthiens 3, 8. Et donc, nous avons des choses, peut-être pas dans le détail parfait, mais nous savons des choses. Nous savons que la mort, c'est qu'un déménagement de la tente à une demeure glorieuse. Il y aura aussi ce jugement. Et donc ça doit me conduire à vivre pour lui plaire. Et l'application, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ma vie dont j'ai conscience déjà maintenant ? Qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Nous savons que nous aurons à comparer, nous n'aurons pas d'excuses. Ces récompenses que nous recevrons, je pense que ce sont ces couronnes dont il est parlé dans tous les épîtres, notamment par Paul. Et quand on voit ce que font les anciens dans l'Apocalypse, ces couronnes, leurs couronnes, ils les remettent aux pieds de l'agneau. Et je pense que nous ferons la même chose de nos couronnes. On ne gardera pas nos couronnes pour se promener, se pavaner dans l'éternité. Mais lorsqu'on le verra face à face, on dira, ah, si seulement je pouvais lui offrir quelque chose. Vous voyez pourquoi c'est important de connaître ces choses, de penser à ces choses. Ça a une influence fondamentale dans notre vie.
for us to think about these things, reflect on them. It will have a permanent effect on our lives.
Et donc, contrairement au monde, on a des vérités sur la mort.
So, in contrast to the world, we do know some truths about death.
Ça peut paraître bête, mais la vie commence par la naissance.
It might seem elementary, but life begins with birth.
Et bien sûr, pour la vie éternelle, il faut cette naissance éternelle, cet être né de nouveau, Jean 3. Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui que vous avez cette nouvelle vie? Très important. La deuxième vérité, c'est que la vie se termine par la mort. On parle bien sûr de la mort et la vie physique. Mais là, encore une fois, c'est un rendez-vous inévitable. Est-ce que vous êtes prêt pour ce rendez-vous ? Une troisième vérité, c'est que les occasions que nous avons se limitent à cette vie. Il n'y a pas de réincarnation dans un petit moineau, et puis un petit lézard, et puis un président de la République, et puis un chanteur de rock. Non, non, non. Après la mort, il n'y aura plus d'options. Tout dépendra de la vie que nous aurons vécue ici. Pourquoi ne pas vivre pour lui plaire ? Prions. Seigneur, merci pour ta parole.
Lord, we thank you for your word.
Qui nous donne des vérités, non pas des suppositions. Seigneur, c'est vrai que tu nous as pas révélé dans le détail tout le scénario. Mais nous en avons assez pour savoir que nous devons vivre pour te plaire, Seigneur. Seigneur, aide-nous, ceux qui te connaissons, ceux qui sont tes enfants déjà, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice. À vivre pour te plaire. En réalisant les choses merveilleuses que tu nous promets, ce corps glorieux, cet Saint-Esprit qui n'est qu'un petit à-compte de des bénédictions que tu veux nous donner. Donne-nous de discerner les choses importantes, des choses qui sont temporaires, Seigneur, qui vont disparaître. Donne-nous cette perspective éternelle. Et pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, ces vérités que nous avons rappelées à la fin, il faut commencer par la vie, la mort termine les options. Aujourd'hui est le jour du salut, nous dit l'apôtre Paul. Si vous réalisez que la mort est un rendez-vous inévitable, et que les théories populaires ne sont que des mensonges, je veux donner l'occasion de venir dans le royaume de Dieu en priant cette prière après moi. Vous pouvez prier dans le silence de votre cœur. Seigneur, je reconnais que je ne vis pas pour te plaire.
Lord, I recognize that I haven't been willing to please you.
que je cherche mon intérêt égoïste. Que je suis un pécheur, une pécheresse, et que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés à la croix. Et qu'il est ressuscité des morts. Qu'en lui j'ai le salut. Je le reçois dans mon cœur. Et désormais je veux vivre pour lui plaire. Sachant qu'un jour il me demandera des comptes. Mais qu'il me donnera encore plus que le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur pour être ma force, pour être celui qui me guide, celui qui m'encourage, celui qui me fait grandir, celui qui change mes habitudes de vie. Seigneur, aide-moi à te suivre. Pendant que nous sommes encore dans une attitude de prière et de recueillement, si vous avez prié cette prière, je vous demanderai de le confesser en levant la main, que nous puissions prier pour vous. Voilà. Seigneur, merci pour toutes ces promesses. Merci que nous n'avons plus à redouter la mort comme les gens qui ne te connaissent pas. Que c'est une transition glorieuse. Amen.